Voici donc la dernière heure consacrée à ce Baudelaire chiffonnier. Vous avez vu que certaines expressions qui pouvaient paraître déconcertantes, curieuses, dans Les Fleurs du Mal, comme cette fantasque escrime du soleil ou cette barbe raide comme une épée des sept vieillards, prennent, me semble-t-il, plus de sens et un sens à la fois plus cohérent et plus riche si on les rapporte au système contemporain du chiffonnage, sans surinterprétation, ou si on les rapporte à ce personnage du chiffonnier comme double allégorique du poète, grâce à cette équivalence qui est bien attestée entre le crochet, l'épée et la plume. Ce réseau de références vise moins la réalité du chiffonnage que cette légende dont j'ai essayé de montrer au cours des leçons précédentes combien elle était omniprésente sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, période qui a été celle du grand âge du recyclage. Vous vous souvenez des explications, le papier aurait alors manqué pour les nombreux tableaux aux physiologies de Paris, sans les chiffons ramassés au coin des rues par les chevaliers du crochet. Et nous n'aurions pas de chiffonniers littéraires sans l'œuvre des chiffonniers de la rue. Alors, je voudrais maintenant m'intéresser à une autre tournure qui me semble tout aussi troublante et qui figure, elle, dans les Petites Vieilles. Poème contemporain des Sept Vieillards, qui est lui aussi composé donc au printemps de 1859 et qui est lui aussi dédicacé à Hugo. Ces Petites Vieilles sont traquées par le poète, voici le début du poème, dans les plis sinueux de la capitale, dans les plis sinueux des vieilles capitales. Et vous vous souvenez peut-être d'une expression que j'avais analysée il y a un certain nombre de leçons, celle du poème en prose « Les bons chiens », où il était question des ravines sinueuses des immenses villes. Et lorsque j'avais analysé « Les bons chiens », j'avais tenté de montrer que c'était aussi un texte sur les chiffonniers, que certains de ces chiens étaient les chiens de rue qui renvoyaient aux chiffonniers. Donc, les Petites Vieilles, traquées par les poètes dans les plis sinueux des vieilles capitales, sont qualifiées de dans les plis sinueux des vieilles capitales, sont qualifiées d'être décrépies, de monstres disloqués, brisés, bossus ou tordus, dans la deuxième strophe. Et suivent alors les vers dissonants par les associations qu'il propose à la rime et les vers que je voudrais analyser. Il rampe, flagellé par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus et serrant sur leurs flancs, ainsi que des reliques, un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Eh bien, ce sont ces sac brodé de rébus que je voudrais explorer un peu. Dans le temps de ces nouveaux tableaux de Paris, de ces physiologies, les rébus étaient très à la mode. Tous les hebdomadaires, comme l'illustration auquel je me suis référé dans le passé, ou le musée des familles, tous ces hebdomadaires qui nous ont servi, offraient à leurs lecteurs des énigmes, des rébus à leur dernière page. Et avec les devises, les rébus ornaient aussi l'emballage des bonbons et des confiseries du temps de Baudelaire. Vous vous souvenez peut-être du récit de Dickens qui, lorsqu'il était venu visiter les abattoirs de Paris, avait repéré des chiffonniers. Un chiffonnier, je pensais que c'était plutôt un balayeur récupérant des papiers d'emballage de bonbons devant un magasin de bonbons. Eh bien, c'était ces emballages de bonbons qui proposaient des rébus. Il y a une physiologie du rébus, il y a beaucoup de physiologie. Il y a bien sûr une physiologie du rébus, publiée en 1842, et il y a aussi une physiologie du poète, une jolie physiologie du poète de 1841, qui est due à Edmond Texier, dont le nom est revenu souvent comme l'auteur des tableaux de Paris et qui est joliment illustré par Daumier. Et dans cette physiologie du poète, il y a un chapitre consacré au poète rébusien, celui qui écrit les poèmes pour les emballages des bonbons. Et le voici représenté par Daumier. On a donc tout un chapitre sur le poète rébusien qui est traité par Edmond Texier de Béranger du Diablotin. Bon. Nous avons souvent vu passer ce diablotin dans ce cours, mais le diablotin ici, c'est un terme de conviseur, hein. C'est une dragée de chocolat, nous dit Littré, couverte de noms pareils, ou encore, c'est une sorte de devise qui accompagne les objets de confiserie. C'est à la fois la confiserie et l'emballage, le diablotin. C'est la devise ou le rébus. Le rébus était donc à la mode. Et pourtant, Baudelaire se doutait qu'il surprendrait ses lecteurs par ses sacs ornés de rébus. Dans une note qu'il ajouta en bas du manuscrit lorsqu'il envoya le poème à Hugo en septembre 1859, il s'expliquait en déclinant toute responsabilité sur le mot. Et il disait « Le rébus n'est pas de mon invention. Il y a dans le journal de la Mésangère des gravures de mode où le réticule est orné de reliefs brodés. Bon, » voilà la justification auprès de Hugo. Elle n'est pas reprise dans l'édition des Fleurs du Mal de 1861, mais le problème tracassait clairement Baudelaire puisqu'il réintroduisit une note en 1862 sur une épreuve du poème pour l'anthologie « Les poètes français » que préparait Eugène Crépé. Et cette fois, la note est la suivante. « Le ridicule ou réticule a été souvent orné de rébus, d'une nature galante, comme le prouvent les vieilles gravures de mode. » Mais là aussi, il a biffé cette note. Donc à deux reprises, il a pensé que sac à rébus méritait une note, devait être expliquée. Et donc, on ne la trouve ni dans les Fleurs du Mal en 1861, ni les poètes, dans les Poètes français en 1862. Mais Baudelaire était évidemment soucieux que cet objet ne parût point trop incongru. Comme il le dit, il songeait aux vieilles gravures de mode ou au journal de la Mésangère, selon l'envoi à Hugo, c'est-à-dire au journal des dames et des modes qui a été dirigé par Pierre de la Mésangère. C'est un périodique très important du début du XIXe siècle. L'éditeur de Baudelaire, son ami Poulet-Malassis, lui avait envoyé plusieurs numéros de ce journal des dames et des modes à Honfleur en février 1859. Et le poète le remercie dans une lettre du 13 février « Vous me ravissez avec les modes de l'ancêtre, merci ». Puis, le 16 février 1859, il semble réclamer un nouveau numéro et il écrit « Le troisième, la Mésangère ?» Point d'interrogation. « Vous ne sauriez croire de quelle utilité pourront mettre ces choses légères, non seulement par les images, mais aussi par le texte. » En 1859, Baudelaire pensait se lancer dans un essai sur la mode, comme l'atteste un projet consigné sur une liste de titres et de canevas, série de scènes du directoire et du consulat, mode de ces époques. Il fait encore allusion à ces images au début du peintre de la vie moderne, qui est aussi rédigé à Honfleur vers 1859. « J'ai sous les yeux, dit-il, une série de gravures de mode commençant avec la Révolution et finissant à peu près au consulat. »
De quoi s'agit-il ? Il s'agit du Journal des Dames et des Modes qui a été publié à partir de mars 1797, en l'an 5, et dont voici un exemplaire de 1801. C'est une publication de 8 pages et chaque numéro est accompagné d'une gravure de mode qui est expliquée et commentée dans le journal. Qui était Pierre de la Mésangère, qui pendant de plus de 30 ans a publié cette revue ? Eh bien, c'était un abbé lettré, professeur de belles-lettres et de philosophie au Collège de la Flèche, mais congédié au moment de la Révolution française et reconverti dans la mode et les mœurs. Il fonda ce périodique sans mettre en avant son nom, en raison de son ancien état, avec un autre professeur de rhétorique de collège congédié, et lui aussi converti en libraire, Jean-Baptiste Sélec, dont vous voyez le nom en haut, ici. Ah non, pas sur ce numéro, excusez-moi. En général, on voit son nom jusqu'à... Ah ben, il était peut-être déjà mort en 1801. Oui, il était déjà mort, pardon. Jean-Baptiste Sélec, il est mort, le pauvre, victime collatérale de l'attentat contre le premier consul, l'attentat de la rue Saint-Nicaise, le 24 décembre 1800. Donc, il venait de mourir. Ce journal, Pierre de la Mésangère l'a donc publié jusqu'à sa mort en 1831, et il lui a encore survécu jusqu'en 1839. Chaque numéro était donc accompagné d'une belle planche hors texte, soigneusement gravée, dessinée par des dessinateurs très célèbres, dont Debucourt et Carl Vernet, que Baudelaire apprécie beaucoup. Et c'est là que Gavarni a fait ses débuts. Résidant chez sa mère à Honfleur en 1859, durant sa dernière période créatrice, au cours de laquelle il élabora quelques-uns des plus beaux poèmes des tableaux parisiens et le peintre de la vie moderne, Baudelaire feuilletait donc des anciens numéros de ce journal des dames et des modes pour, dit-il, l'an 6 et l'an 7, hein, soit 1798 et 1799. Le sac à ouvrage, hein, qui est aussi appelé réticule, réticule du latin, c'est le filet romain, ou encore ridicule. On est passé de réticule à ridicule par une altération plaisante qui est entrée dans la langue, et ce mot amuse encore Baudelaire. Le réticule chargé d'un chiffre, d'une devise ou d'un rébus a donc en effet été à la mode sous le directoire. Pourquoi sous le directoire ? Parce que c'est une période de liberté retrouvée, de fantaisie vestimentaire, marquée par le retour de la coquetterie et la recherche de la distinction après la simplicité égalitaire imposée par la Révolution et la Terreur. Et selon une historienne du costume des années 1920, le ridicule du directoire est une adaptation élégante du sac à ouvrage des bisaïeuls. Il est oblong, octogonal. Vous en devinez un ici, qui est là. Il est oblong, octogonal, hexagonal, parfois à quatre pointes, toujours illustré de broderies, initiales, rébus ou devises, brodées en perles, en soie ou bien en paillettes. Cette mode du ridicule sous le directoire nous intéresse à plus d'un titre. En effet, cette mode est contemporaine de celle de l'album que j'ai évoqué lors du premier ou du second cours, hein, l'album Amicorum ou le chiffonnier sentimental, hein, ces appendices dont l'adoption était signalée par Étienne de Jouy dans l'une de ses premières chroniques. Dans l'album, les femmes conservent les inscriptions de leurs amis et un correspondant régulier de l'ermite de la Chaussée d'Antin associe l'apparition du ridicule à la suppression des poches des vêtements. Tous les articles du Journal des Dames et des Modes disent qu'on a introduit le ridicule parce qu'on a supprimé les poches. Et un correspondant de Jouy précisait ceci, bon, il s'en moquait, « Chaque femme est inséparable de son album comme de son ridicule. Bien plus, ces deux objets, loin de s'exclure, se sont liés jusqu'à se confondre. Un album et un ridicule ne font plus qu'un. Renfermés dans le ridicule, l'album marche avec nos petites maîtresses, semblables à ces livres d'heures que nos grands-mères faisaient porter dans des sacs de velours quand elles allaient à la paroisse. Le dirons-nous enfin, puisque pour adapter le ridicule à cet usage, on a été forcé d'en changer la forme et la capacité. En prenant les albums, nos dames n'ont fait que changer de ridicule. L'un dans l'autre, ils se produisent dans toutes les sociétés. » Bref, vous le voyez, sous le directoire, le ridicule contient probablement l'album. Nombreux sont les sacs à ouvrage qui figurent dans le journal des dames et des modes dans lequel je me suis plongé. Ce sont de très belles planches hors texte. Malheureusement, elles ne sont pas signées dans la période 1798-1799 que Baudelaire considère. Et à la Bibliothèque nationale, on trouve aussi les croquis aquarellés qui ont servi à l'élaboration de ces planches hors texte. En voici quelques exemples. Voici donc un sac à ouvrage, un ridicule triangulaire. Je vous donne la légende. Costume parisien, en 6. Vous voyez, en 6, planche 46, elles sont numérotées, costume parisien, et la légende. Manches courtes relevées avec des gants sur les manches de satin, rosette sur le devant de la robe, sac à ouvrage, et le lieu où la femme a été rencontrée par l'abbé de la Mésangère, Tivoli, 30 Prairiales. Voilà une belle, une merveilleuse de Tivoli. Et voici le même croquis aquarellé préparatoire de cette planche. Ou celle-ci, magnifique, costume parisien, en 6, planche 47, donc la semaine suivante, voile à l'Iphigénie, mantelet blanc, sac à devises, Champs-Élysées. La même dans le croquis aquarellé. Ou celle-ci, superbe, costume parisien, en 6, planche 56, cheveux à la caracalla, sac à ouvrage, appelée balatine. La balatine, c'est le sac à ouvrage qui est accroché à la ceinture comme le sac des hussards. Hein. Et donc, sa balle, et comme sa balle, on l'appelle balatine. C'est le nom que prenait le sac pendant à la ceinture comme une sabretache de hussard. Très belle planche que celle-ci, dont voici le dessin. Ou celle-ci, turban et spencer à l'algérienne, sac appelé ridicule en forme de corbeille, théâtre italien. Toujours le ridicule. Ou voilà le croquis aquarellé, ou voici celle-ci, turban au ballon, ceinture croisée, ridicule à chiffres, grand R, théâtre Feydeau. Et le croquis aquarellé, ou celle-ci, costume parisien, en 7, planche 98, bonnet turban en crêpe, fichu ceinture. Et voici le dessin aquarellé. J'ai retenu des modèles qui concernent la période qui intéresse Baudelaire, moins d'un an, entre juin 1798 et mars 1799, et voici, sur cette année, les sacs à ouvrage, réticules ou ridicules brodés, ou encore balantines. Une seule de ces gravures montre en vérité un rébus. C'est celle-ci. Une seule montre un rébus. Voici la gravure et le croquis aquarellé de dessinateurs inconnus. Et vous voyez le chiffre 100, la lettre D et une tour pour signifier sans détour. Formule qui, comme le dit Baudelaire dans sa note imaginée, pourrait être de nature galante. Dans son importante histoire du directoire de 1851, Adolphe Granier de Cassagnac consacre un chapitre à la révolution dans le costume qui eut lieu sous ce régime, et il décrit la déplorable bigarrure de quelques robes d'après les gravures exactes et authentiques du Journal des Dames et des Modes. Chaque couturière ou modiste, dit-il, ajoutant à son gré un ridicule au ridicule imaginé par ses rivales. Vous voyez qu'il joue sur le sens de ce mot ridicule qui avait un sens précis, et il décrit longuement quelques-unes de ces robes que je viens de vous montrer. Par exemple, celle-ci avec sa ballantine. Voici la description de Granier de Cassagnac. Robe de linon à longues manches, à gauche, sur le côté extérieur des manches et sur le bas de la robe, garniture de grec pourpre, énorme sac à ouvrage nommé ballantine, carré long, bordé de franges d'or avec des peintures étrusques, figure rouge sur fond noir, jambes et pieds nus, sandales de pourpre, des bagues aux doigts des pieds, collier de camé, cheveux courts à bouillon ou à coque, dit à la caracalla. Les cheveux courts à bouillon ou à coque, c'était la coiffure de l'une des trois grâces du directoire, Madame Tallien, Joséphine de Beauharnais et Madame de Visconti, selon Arsène Housset, l'ami de Baudelaire, qui relate le détail de leur costume en s'inspirant de l'histoire du directoire dans son livre intitulé « Notre-Dame de Thermidor, histoire de Madame Tallien ». Or, dans le livre de Granier de Cassagnac, juste avant celle-ci, Granier de Cassagnac décrit celle qui m'intéresse. Ah, je ne la vois plus. La voici. Robe de linon sur transparent rose, mantelée en mousseline claire, garnie de dentelle, souliers de maroquin vert, souliers en maroquin vert. Ça m'a bien ennuyé parce qu'ils ne sont pas verts ici. Voile blanc à l'Iphigénie, soutenu par deux bandeaux en feuilles de laurier, ridicule énorme, arébus, brodé en soie, ainsi formulé, le chiffre 100, un D majuscule, une tour, lisez sans détour. Alors, la voici avec les chaussures en maroquin vert. Ça, c'est l'exemplaire qu'on trouve au Rijksmuseum à Amsterdam. Et les maroquins, les souliers étaient bien verts, rimant avec les gants, d'ailleurs, de la jeune dame. Dans le livre d'Arsène Housset, c'est Madame Tallien qui est habillée ainsi. Lorsqu'il décrit Madame Tallien, il la décrit avec cette robe de linon sur transparent rose. Voilà la description d'Arsène Housset, chiffonnier des lettres, quasi plagiaire de Granier de Cassagnac. Sa robe est de linon blanc sur transparent rose, le mantelet en mousseline claire, et un peu plus bas, elle porte un voile blanc comme Iphigénie, elle qui joue dans son salon les reines de Sophocle et les amantes d'Euripide, deux bandeaux en feuilles de laurier soutiennent le voile d'Iphigénie. Mais vous voyez, Arsène Housset ne mentionne pas le sac Arébus que probablement il ne trouvait pas assez distingué pour Madame Tallien. Il a plagié tout le reste, sauf le sac Arébus. Ajoutons que dans le livre de Granier de Cassagnac, après cette description des tenues féminines, suit le portrait des tenues masculines, d'après le Journal des Dames et des Modes, où les hommes figurent également, et notamment la tenue du beau Barras, comme il dit. Ce beau Barras, qui, vous vous en souvenez peut-être, avait été la connaissance d'une vieille chiffonnière ivrogne rencontrée par Nerval chez Paul Niquet en 1852. Dans l'un de mes cours antérieurs, j'avais évoqué cette chiffonnière qui avait connu Barras et qui, dit-elle, avait elle aussi porté les bagues aux doigts de pied, comme la précédente. De fait, vous le voyez, une seule des gravures publiées dans le journal de la Mésangère en 1798 et 1799 présente un véritable rébus. C'est celle-ci. C'est donc incontestablement celle-ci que Baudelaire remarqua en 1859 durant son séjour à Honfleur. C'est intéressant parce que, sans détour, c'est non seulement un bon exemple de rébus, mais c'est même le modèle de tous les rébus dans les dictionnaires. C'est le rébus idéal. D'une part, sans détour n'est autre que la traduction courante de nudis rébus, comme dans nudis rébus agere, agir sans détour. D'autre part, c'est le premier et souvent le seul exemple de rébus donné dans les dictionnaires. Par exemple, dans le dictionnaire de Pierre de la Mésangère, puisqu'il n'oublia pas qu'il avait été professeur de rhétorique et de philosophie lorsqu'il devint l'éditeur du journal des Dames et des Modes, et qu'il est aussi l'auteur d'un dictionnaire des proverbes français, dont voici l'article Rébus, qui nous intéressera. « Il fut un temps où les écrans étaient chargés de rébus. On en a mis, il y a quelques années, sur les sacs à ouvrage de nos dames. Celui que les brodeuses se plaisaient davantage à reproduire offrait le nombre 100, la lettre D et une tour. » Ce qui voulait dire sans détour. Tel était donc le rébus le plus ordinaire, en effet galant, qui décorait les ridicules du directoire. Vous voyez que la Mésangère était très attentif aux moindres détails des costumes qu'il retenait pour les planches de son journal. Il donnait des indications précises à ses dessinateurs. Il ne fait pas de doute qu'il veilla à la reproduction du sac à devises repéré aux Champs-Élysées au printemps de 1798, avec ce rébus que Baudelaire devait insérer bien longtemps après dans les Petites Vieilles. Derrière les sacs brodés de fleurs et de rébus des Petites Vieilles, il y a donc eu des réalia, ou plutôt ces images dénichées par Baudelaire dans des journaux de mode de 1798 et 1799, vieux de plus d'un demi-siècle lorsqu'il les consulta. Je l'ai dit, il pensa aussi deux fois qu'il devait s'expliquer. Puis il y renonça. Voici donc ces sacs brodés des Petites Vieilles identifiés. Non pas un petit sac en vérité, comme Baudelaire dit, puisque ce sont des sacs plutôt grands. J'aurais pu en rester là, satisfait d'avoir trouver cette image et d'avoir ajouté une note érudite et une image pittoresque aux futures éditions critiques des Fleurs du Mal. Mais il me semble que ces sacs brodés de fleurs et de rébus recèlent encore quelques secrets. On peut maintenant les reproduire, donner leur modèle, mais après tout, Baudelaire les déplace de 1798 dans le Paris d'Haussmann. En 1861, comme la fantasque escrime du soleil ou la barbe raide comme une épée des sept vieillards. Il doit y avoir une autre explication, me semble-t-il, à ce déplacement que l'existence d'un sac à rébus dans un ancien numéro du journal des Dames et des Modes, pour que Baudelaire, 60 ans après, en ait équipé ses Petites Vieilles. Et c'est ici que je me suis rappelé que la chiffonnière de Paul Niquet, rencontrée par Nerval, avait elle aussi porté des bagues aux doigts et bien connu Barras. Comme les sept vieillards, chacun muni de son numéro 7, étaient, me semble-t-il, des chiffonniers, les Petites Vieilles, accoutrées de leur sac à rébus, ne seraient-elles pas elles aussi des chiffonnières. Mais comment l'établir, à part le sac à rébus ? Vagabondant moi-même, à la façon d'un chiffonnier, ce que j'ai fait beaucoup pour préparer ce cours, et maniant le crochet, un crochet qui, souvent aujourd'hui, a la forme d'une souris, je suis tombé sur un article non signé dans un numéro du Figaro de 1837, qui est intitulé « Chambre d'artiste ». Et voici un extrait de cet article. « la chambre d'artiste doit s'enfouir sous la crasse comme une ruine des vieux temps. Elle recueille les ordures des autres, va quelquefois les chercher loin et en fait les plus doux ornements. Ce sont ça et là des tessons de vaisselle, des ustensiles inaccoutumés, des débris de friperie, des rebuts jetés à la borne, un lambeau de damas, une trompette, un briquet rouillé et, par exemple, autant de charognes que possible. Cela, un peu plus bas, est du meilleur effet. Vous voyez qu'en quelques lignes, on a dans cette chambre d'artiste tout le système du chiffonnage. Une description de bohème qui ressemble à celle d'un Biffin. Crasse, ruine, ordure, tesson, débris, rebut, lambeau, charogne. Bon, il y a un quartier de viande un peu plus bas, une tête de cheval qui est mentionnée. Il est encore question, plus loin dans l'article, d'immondices, de cloaques, de rats, de vermine. Ça fait évidemment penser à la chambre de Baudelaire, l'hôtel Pimodan, sur l'île Saint-Louis, dont il y avait eu cette caricature d'Émile Durandeau qui ne lui avait pas trop plu, intitulée « Les nuits de Baudelaire », et qui était accompagnée d'un texte de Banville décrivant, chambre de Baudelaire, hein, le grabat, la guenille, la tête de mort, la cornue, l'ibis, le chiffon, le bouquin, la malle, le rat, le balai, le chat, le diable en nombre de chats. Description qui est assez semblable à celle du Figaro. Et Banville qualifiait cette chambre de Baudelaire de taudis de chiffonnier alchimiste. Cet article du Figaro, anonyme, en 1837, est le troisième d'un petit feuilleton de 4 jours, portrait de l'artiste contemporain. Or, l'auteur anonyme de cet article, c'est tout simplement Théophile Gautier, qui n'a jamais recueilli ces articles, mais nous savons qu'il était intéressé par les taudis et les barrières. J'ai évoqué il y a longtemps son feuilleton sur Montfaucon de l'année suivante. Et vous voyez que Gautier, ou du moins le typographe du Figaro, écrit encore « rebut » sans le « t » au pluriel, comme ornement un peu plus haut, en faisant tomber la consonne finale. « Rebut » pouvait s'écrire comme « rébus » en ce temps-là. D'où la question. Les réticules, un rébus des petites vieilles, n'auraient-ils pas, eux aussi, été au rebut, ramassés au coin d'une borne? Il serait intéressant d'évoquer davantage Gautier, parce qu'il y a beaucoup chez Gautier de réflexions sur cette borne et sur ce rebut, toutes ces métaphores que j'ai trouvées chez Gautier, mais je me limiterai à une d'entre elles pour aller vite au jeu de la boue et de l'or, de l'auréole et de l'ordure, dans une vanité baroque, l'un des deux tableaux de Valdés Real dans Espagna, parce que c'est un poème admiré par Baudelaire et où on y trouve un des plateaux chargés de tiares papales, de couronnes de rois, de sceptres, d'écussons, l'autre de vils rebuts, d'ordures et de tessons. C'est la vanité habituelle, la couronne et l'ordure, la couronne au rebut qu'on a souvent rencontré. Mais je reviens sur cette équivalence rebut, rébus. Ce sont deux mots qui se suivent dans le dictionnaire et ce sont deux mots dont l'homophonie est facultative. On sait bien que on a toujours du mal avec rébus sans savoir s'il faut prononcer le S ou s'il faut le laisser muet. Il y a tout un débat à ce sujet. N'est-il pas plus exact de dire rébus, en tout cas au singulier, un rébus, des rébus, comme dans le Midi, et même si le mot vient d'un ablatif latin. Les bons latinistes disent d'ailleurs « rébus » pour la devinette, avec la prononciation restituée, et ils disent « rebus » pour l'ablatif latin.
mais un bon latiniste aujourd'hui ne prononcerait jamais rébus. Ça serait désigner un ignoramus. L'un des poèmes de Praron, publié en 1843 dans le recueil collectif Vert que j'ai cité au début de ce cours, Praron, ami de Baudelaire, c'est un poème que Jules Mouquet attribue à Baudelaire et qui met en scène un poète romantique dont les mots, comme tous les mots de poète romantique, mentent. Le terme de rébus y figure déjà et il rime avec abus, poème attribué à Baudelaire. Il altère donc ce poète romantique, il altère leur titre en d'étranges abus. Chaque vers, une énigme, un jeu de patience. Il altère leur titre en d'étranges abus, et j'oublie le vers important. Chaque vers qu'il enfante est un sombre rebut. Chaque phrase, une énigme, un jeu de patience, a damné des préaux et sa haute science. Vous voyez que rébus, qui est bien à la mode dans les années 1840, peut rimer avec abus. Et dans un autre poème du même recueil, cette fois signé Le Vavasseur, on va trouver des rimes très baudelairiennes. Du sonnet « Moi, j'ai la manie », j'aime calembour et rébus, j'aime la royauté bannie, j'invoque Pégase et Phébus. Je lis au soir ma litanie et mon feutre insulte Gibus, je compterai pour Avani de m'encaisser en omnibus. Vous voyez que dans le même recueil de poèmes, rébus rime avec abus et avec Phébus, Gibus et omnibus. En 1843, vous voyez que les deux étaient possibles, que les deux se faisaient. Et en 1859, dans Les Petites Vieilles, rébus rime avec omnibus. Comme le Vavasseur, ici, Baudelaire s'amuse à introduire un néologisme prosaïque dans la poésie lyrique, et je ne crois pas qu'on ait jamais dit omnibus. Vous voyez qu'il y a de quoi hésiter et de quoi renforcer cette thèse, et j'en étais là, mais me manquait encore un argument décisif pour faire des petites vieilles des chiffonnières, lorsque j'ai consulté le Dictionnaire universel de la langue française de Boist, qui date de 1800 et qui a été revu par Nodier, justement, chiffonnier littéraire dont nous parlions la semaine dernière. Et voilà, dans ce dictionnaire, l'article rébus. Rébus, jeu de mots, allusion équivoque, calembour. Représentation des objets substitués aux mots à l'aide de l'équivoque. Figuré, familier, mauvaise plaisanterie. La prononciation, rébus, rébus par les choses, latin. Et puis une locution, mettez les rébus au rebut. Et suit l'article rebut, contemptio, action de rebuter, ce qui a été rebuté, mettre au rebut. Chose de rebut. Voilà donc la locution qui explique tout. Mettez les rébus au rebut. Locution courante, jeu de mots, calembour, rébus. Le même usuel contient un dictionnaire des rimes où l'on découvre en effet que rébus peut rimer aussi bien avec abus qu'avec omnibus, tandis que rebut lime avec lutte. Ainsi, le rébus est un calembour, une mauvaise plaisanterie, et il existait un calembour sur le rébus qui, jouant sur le U long et le U bref, mettait le rébus au rebut. Il me semble qu'il n'y a plus de doute. Sous le rébus, il y a le rebut, et sous le sac à rébus, un sac au rebut. Les petites vieilles qui trottent et se traînent, qui dansent sans vouloir danser dans le poème de Baudelaire, ont le pas saccadé, le dos cassé des chiffonnières, souvent elles-mêmes d'anciennes trotteuses. N'oublions pas qu'elles ont aussi les yeux perçants comme une vrille,
comme ce crochet qui pénètre dans le tas pour fouiller. Et c'est donc bien au rebut, oserais-je dire, qu'elles ont trouvé leur sac brodé de rébus, vieux alors de plus d'un demi-siècle. Quelques mots de conclusion. Le point de départ de ce cours, vous vous en souvenez, du premier cours, au début du mois de janvier, ce cours sur le chiffonnage dans l'œuvre de Baudelaire, a été double. D'un côté, il y avait le livre de Francesco Orlando sur les objets désuets dans l'imagination littéraire. Cette enquête sur les objets anciens, passés de mode, dans la littérature. Et un sonnet de Baudelaire, le deuxième spleen que j'ai analysé dans le premier cours, était au centre de ce livre. D'autre part, la lecture plus ancienne des travaux, des articles dispersés et itératifs de Benjamin sur Baudelaire, cherchant à prouver que le poète des Fleurs du Mal avait été non seulement un révolutionnaire en 1848, mais qu'il l'était toujours resté, qu'il avait été un socialiste clandestin jusqu'à la fin de sa vie. C'était donc ces deux travaux qui étaient mon départ et, un désaccord cordial avec ces travaux, pensant, contre Orlando, qu'il n'y avait pas d'objet désuet au XIXe siècle, puisqu'il y avait toujours un chiffonnier pour le faire sien, et contre Benjamin, que la fraternité de Baudelaire avec le chiffonnier ne suffisait pas à démontrer que Baudelaire était un socialiste. Relisant Baudelaire du point de vue du chiffonnier, je me suis aperçu que Benjamin ne s'arrêtait pas aux nombreuses ramifications du chiffon dans l'œuvre du poète, et on a vu aussi qu'il se permettait quelques interprétations un petit peu osées, dictées par son obsession politique, en particulier à propos de ses mouchards du vin des chiffonniers. Et puis, explorant ce réseau du chiffonnier dans les poèmes, il me semble que j'ai pu aujourd'hui, mais au cours de ces leçons, donner plus de sens à une série d'expressions, aujourd'hui les fantasques escrimes et sacs brodés de fleurs et de rébus. Je crois à présent que ce détour par le chiffon permet de mieux comprendre beaucoup de pages de Baudelaire, et je dirais donc, comme Benjamin, que Baudelaire fut complice du chiffonnier, mais je ne l'entendrai pas de la même manière, puisque je vois cette fraternité moins comme un argument politique que comme une ressource poétique qui irrigue toute l'œuvre. Il nous est vite apparu que le chiffonnier a été un personnage beaucoup plus considérable que nous ne le soupçonnions. Pendant deux ou trois générations, au cœur du XIXe siècle. Je dirais aussi représentatif du moment que l'écrivain, et aussi, aussi important peut-être que le roi citoyen ou l'empereur, par l'abondance des images et des textes qu'il a suscités, le roi ou l'empereur, dont il est une sorte de double carnavalesque. Et je me demande si je n'oserais pas dire en conclusion que le chiffonnier est une sorte d'idéal type du XIXe siècle, comme Paris a été la capitale du XIXe siècle, ou en tout cas qu'il est l'idéal type de Paris, capitale du XIXe siècle. Je rappelle qu'il a pris son essor peu après les débuts de la Révolution industrielle et qu'il a vite distancé tous les autres métiers de rue à partir du moment où le papier est venu à manquer et qu'il est devenu un acteur économique essentiel jusqu'au moment où on a fabriqué le papier non plus avec du chiffon mais avec du bois. Et je dirais, je crois que, qu'à mes yeux, son moment, son âge d'or, commence autour de 1822. Vous vous souvenez de la caricature de Charlet, qui immortalise le chiffonnier, de 1822, de la caricature de Debucourt, de Carl Vernet, gravé par Debucourt, celle que Baudelaire aimait, qui date aussi de 1822, ou encore le texte de Jouy sur le chiffonnier littérateur, qui date de 1824. Et je crois que ça marque bien le début de la légende et du mythe. Et au fond, que cela s'arrête dans les années 1870, cette légende. Le siège de Paris a fait prendre conscience de la nécessité de réformer le nettoiement de la capitale et d'évacuer définitivement le chiffonnage au-delà des fortifications dans la zone. Le sujet, donc, n'avait pas trop de danger de s'étendre au-delà de cette période. J'ai tenté de l'enfermer dans cette période, en gros, 1822-1871, ce qui, d'ailleurs, coïncide à peu près exactement avec la vie de Baudelaire. Et je suis simplement remonté à la Révolution pour comprendre pourquoi le chiffonnier était mûr pour devenir un mythe un peu plus tard. Après le temps de Baudelaire, le chiffonnier a perdu très rapidement son aura. Il n'est plus un personnage considérable. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les travaux d'Haussmann, qui ont élargi les trottoirs, qui ont éliminé les bornes et qui ont illuminé les rues. Et en 1867, qui est l'année de la mort de Baudelaire, au moment de l'exposition universelle, le Paris Guide que j'ai cité plusieurs fois célèbre les nouvelles Halles de Baltard, donc le quartier des Halles, quartier du rebut. Et voici ce... j'ai oublié cette image qui nous montre le sac à ouvrage et le sac à ordures. Je n'ai pas mis dans une image la citation que je voudrais faire. C'est une citation donc du Paris Guide de 1867 sur les Halles de Baltard que voici. Un palais de fer et de cristal, ces Halles qui malheureusement sont détruites et à la place desquelles on inaugure ces jours-ci ce que je crois qu'on appelle un canopé. Un palais de fer et de cristal remplace le pilier des Halles et Paul Niquet n'est plus le grand bouge du quartier. Liard est allé où va toute chose et nous n'avons plus de chiffonnier philosophe. Donc 1867, pour Paris Guide, le chiffonnier est mort. Dès la fin des années 70, la pâte issue du bois supplante définitivement la pâte de chiffon dans la fabrication des papiers. En 1879, il n'y a plus que 5% du papier qui est fabriqué en France à partir de chiffon. Quant à l'autre ressource qui faisait la richesse du chiffonnier, qui était le phosphore du bois, eh bien, au même moment, on invente les allumettes dites suédoises et l'usage du phosphore blanc, très dangereux, dans les têtes d'allumettes disparaît. Ainsi, le métier de chiffonnier est moins lucratif et s'il n'est plus voué à l'extinction à partir de cette date, il est anachronique depuis les progrès de l'industrie chimique. Et je le rappelais dans mon premier cours, c'est le moment de l'invention de la poubelle. Et lorsque Jules Vallès écrit son tableau de Paris en 1882, juste avant l'invention de la poubelle, il reprend le modèle de Mercier, d'Edmond Texier, d'un siècle, de trois décennies plus tôt. Il note d'emblée que les temps ont changé et il écrit « Les portes hautes ne ressemblent pas non plus à leurs aînés. Il n'y a plus d'études curieuses à entreprendre sur ces oiseaux de nuit. » 1882, il fait référence à Privat d'Anglemont, l'ami de Baudelaire. Il n'y a plus rien d'intéressant à faire. Et on peut ajouter
qu'à partir des années des 1880, les revenus des chiffonniers ne sont plus supérieurs à ceux des ouvriers, mais inférieurs. De manière intéressante, on a l'impression que, comme tout à l'heure, les caricatures représentaient encore Zola avec une plume d'oie à l'époque de la plume de fer, c'est le moment du plus grand succès en peinture du chiffonnier avec Raffaelli, que voici. Ce Raffaelli que Degas surnommait le Raphaël des chiffonniers. Mais ce Raffaelli que l'on qualifie de peintre des chiffonniers, 1879, il habitait à Asnières. C'est lui qui s'est fait la spécialité des chevaliers du crochet, mais vous voyez que ces chevaliers du crochet sont bien loin de la rue Mouffetard. Dans les tableaux de Raffaelli, ils sont dans la zone, ils sont à Asnières. On voit les cheminées d'usine, et celui-ci, qu'un de mes invités un jour vous a montré, cette rentrée des chiffonniers avec leurs trois chiens, deux avec une hotte, un avec un sac. C'est un tableau qui est célébré par Huysmans dans son salon de 1879. Huysmans parle de ces trois chiffonniers qui retournent au gîte accompagnés de leurs chiens dans un paysage mélancolique, paysage autour du Paris pauvre. Et un peu plus bas, il parle du charme attristé des cabanes branlantes. Vous voyez qu'on est très loin du centre de Paris, interminables routes qui se perdent au sortir des remparts. On est dans un autre monde dans ces tableaux de Raffaelli. Et si le paysage peut rappeler Bohémien en voyage ou Chacun sa chimère, hein, poème de Baudelaire que j'ai commenté, le temps du chiffonnier est passé et Raffaelli est un retardataire. La chiffonnerie occupe la zone. Mais, curieusement, c'est le moment de nombreuses publications. C'est le moment où on publie des romans du chiffonnier. C'est le moment où on publie, où je vous avais montré ces dessins de Villette lors du premier cours. C'est le moment de nombreuses publications comme celle-ci, La Hotte du chiffonnier, Les Rois du ruisseau. La Hotte du chiffonnier, c'est un livre qui a connu 5 éditions entre 1885 et 1910, et le livre de Georges Renaud, Les Rois du ruisseau, tous les deux illustrés de plusieurs éditions. Mais, je dirais, le chiffonnier, dans ces années-là, est un homme du passé. Il est encore présent dans la poésie, et l'allégorie du poète en chiffonnier, on la retrouve. On la retrouve, par exemple, chez le jeune Mallarmé, le chiffonnier est un alter ego du poète dans ses vers de Mallarmé. Dans un de ses faubourgs où vont des caravanes de chiffonniers se battre et baiser galamment un vieux linge sentant la peau des courtisanes et lapider les chats dans l'amour s'abîmant, j'allais comme eux. On retrouve les chiffonniers qui se battent, le vieux linge, les chats et le poète qui est brutalement identifié au chiffonnier, ou dans les vers suivants de Tristan Corbière, dans Paris nocturne en 1890, c'est le Styx asséché, le chiffonnier Diogène, ce vieux lieu commun qu'on a vu de nombreuses fois, sa lanterne à la main s'en vient errer sans gêne, le long du ruisseau noir, les poètes pervers pêchent leur crâne creux, leur serre de boîte à verre, donc on passe du chiffonnier au poète, hein. Il y a bien cette doublure du chiffonnier et du poète, ou encore le chiffonnier est présent dans Les Chants de Mal d'Aurore de l'Audrey Hamon, qui est évidemment la hôte de tous les lieux communs de la poésie du siècle, et peut-être que ce n'est pas par hasard, le chiffonnier est lié, c'est la troisième citation, à l'omnibus. C'est le bon chiffonnier qui prend soin d'un enfant tombé derrière un omnibus. Voyez ce chiffonnier qui passe, courbé sur sa lanterne palote, il y a en lui plus de cœur que dans tous ces pareils de l'omnibus. Il vient de ramasser l'enfant. Soyez sûr qu'il le guérira et ne l'abandonnera pas. J'ai évoqué à différentes reprises ce topos du chiffonnier recueillant l'enfant trouvé, abandonné au coin de la borne. C'est ça qu'on retrouve chez Laotréamon. Il s'enfuit, mais de l'endroit où il se trouve, le regard perçant du chiffonnier. J'analysais tout à l'heure le regard perçant des petites vieilles en chiffonnière. Le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Mais vous voyez que ce sont dans des expressions ou dans des textes qui tiennent du pastiche que se retrouve alors le chiffonnier. Quelques années plus tard, l'expression « au coin de la borne » ne dit plus rien à personne et disparaît de la langue française après la littérature. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a pu prendre la thèse de Benjamin sur Baudelaire et le chiffonnier pour argent comptant. À quoi me suis-je donc intéressé au cours de ces leçons ? Je me suis intéressé à ce système du chiffonnage et je dirais que si j'ai parfois donné l'impression de m'intéresser à lui en tant que tel et pour lui, c'était avec le souci de sa productivité dans les textes. Et c'est pourquoi j'ai parlé à différentes reprises de ce système descriptif du chiffonnage. J'ai voulu observer sa dissémination à la surface de la littérature comme une sorte d'efflorescence de cette structure profonde de la littérature dans l'œuvre de Baudelaire, mais aussi chez Nodier, Janin, Gautier, Champfleury, Hugo, le grand chiffonnier du XIXe siècle, ou parfois, exceptionnellement, Balzac, puisque l'on a vu qu'un seul chiffonnier figure dans la Comédie humaine, mais c'est une apparition capitale. Voyez que l'exploration économique et sociale, la consultation iconographique, n'avait d'autre but que de dégager une poétique du chiffon au milieu du XIXe siècle. Il y avait un autre risque que celui de déborder la période, l'âge d'or. C'était celui de généraliser le chiffonnage dans une sorte d'esthétique du recyclage. Et je crois que pour l'éviter, j'ai toujours insisté sur le fait qu'il fallait distinguer attentivement les fonctions, distinguer le chiffonnier de ses voisins, fripier, brocanteur, marchand d'habits ou encore le collectionneur. Le chiffonnier n'est pas le collectionneur, disais-je la semaine dernière. Le collectionneur, c'est un peu la perversion du chiffonnier puisque ce qu'il récolte ne retourne pas au recyclage. On a vu des chiffonniers collectionneurs chez Étienne de Jouy ou chez Champfleury, ce collectionneur d'affiches qui en fait un musée. Mais ce sont des fantaisies d'écrivains qui détournent la matière première et je crois qu'il ne fallait pas dissoudre cette célébrité allégorique du chiffonnier dans une esthétique de la reprise universelle du plagiat généralisé. Il me semble que si l'on veut explorer la poétique du chiffonnage dans une série de textes, il faut prendre garde à ne pas confondre cette poétique avec une sorte de théorie anachronique de la friperie littéraire. À l'époque, le chiffonnier et le fripier sont deux métiers bien distincts, et en général, quand on parle des plagiaires, on les appelle plutôt des fripiers des lettres. C'est par la suite, lorsque le cœur du métier de chiffonnier ne réside plus dans la collecte des chiffons, des os, etc., que le métier se confond avec celui de fripier ou de marchand d'habits. Et j'ai donné l'exemple de la pantomime des enfants du paradis, qui, je crois, n'est pas tout à fait compréhensible aujourd'hui, puisqu'elle met aux prises un fripier et un marchand d'habits. Barreau, de bureau, c'est le fripier, et le marchand d'habits, c'est l'avatar de Géricault, joué par Pierre Renoir,
qui prend très mal d'être représenté dans cette pantomime. Mais je crois que les spectateurs aujourd'hui ont du mal à faire la différence entre un chiffonnier et un marchand d'habits. C'est donc la fin d'une époque. Bien sûr, par la suite, nous verrons des personnages de mythiques de recycleurs, et je pense à l'un qui est important, c'est dans le roman de Michel Tournier, Les Météores, de 1975, où il y a ce scandaleux personnage de l'oncle Alexandre, qui est surnommé le dandy des gadous, et qui récupère beaucoup des traits du chiffonnier mythique. Et la semaine dernière, quand j'étais en Russie, quelqu'un me citait ces vers d'Anna Akhmatova. Si vous saviez, dont je donne une traduction, si vous saviez seulement sur quelle balayure poussent les vers, toute honte mise à bas. Évidemment, ça fait penser au vers de Baudelaire. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, mais en même temps, j'ai appris que la récolte des chiffons à Saint-Pétersbourg n'a jamais rien eu de commun avec celle de Paris, et que, comme celle de Londres que j'ai évoquée, et que le mot de chiffonnier ne connaît pas de traduction littérale en russe. Il n'y a pas d'équivalent littéral. Les chiffonniers ont donc disparu du paysage parisien au début du XXe siècle, et ils sont partis de l'autre côté des fortifications. C'est là que Vallès les rencontre en 1882, et ce quartier sordide, hein, ce bidonville de la route de la révolte, a été décrit de nombreuses fois dans des reportages à partir du début des années 1880, et c'est dans ce quartier que Adjé a fait ses photographies de chiffonniers. Chaque fois que je dis que je fais un cours sur les chiffonniers, on me dit « Ah, les photos d'Adjé ». Mais les photos d'Adjé ne m'intéressent pas, puisqu'elles ne concernent pas Paris intramuros et qu'elles concernent une période qui est parfaitement ultérieure à l'âge d'or de la chiffonnerie. Ce sont ces photos très célèbres. Chaque fois, je dois dire « Non, ce n'est pas à lui que je pense. Celui-ci porte encore une hotte et un crochet. C'est une photographie de 1899. » Mais celui-ci, voilà un chiffonnier d'Adjé. Vous voyez qu'il n'a plus grand-chose à voir avec le chiffonnier de Daumier, de Traviès ou de Gavarnie, qu'il dispose d'une petite voiture à bras pour emporter ses chiffons de l'autre côté des fortifications. Et voilà une photographie de chiffonnier rue Royale en 1900, j'ai plus la date de la photo. En 1912, chiffonnier rue Royale 1912, et vous voyez que nous sommes dans un autre monde. Alors bien sûr, il peut y avoir des retards, des décalages, et vous vous souvenez d'une image d'Épinal que je vous ai montrée lors du premier cours. Elle a été diffusée encore au XXe siècle dans les écoles. En voici une autre, l'histoire d'un journal. C'est un exemplaire de 1905, cette image d'Épinal. Elle est diffusée dans les écoles, c'est pour les leçons de choses. Et vous voyez que le journal, eh bien, ça commence par le travail de nuit des chiffonniers à une date où il n'y a plus de papier produit avec les chiffons, mais c'est encore ce que l'on apprend aux petits-enfants des écoles. Au XXe siècle, le chiffonnier ne se distingue plus de toute une série de vagabonds et d'autres, c'est une profession qui se rapproche de plus en plus de la mendicité. Bien, pour finir, disons que pourquoi s'intéresser à la chiffonnerie ? Eh bien, sans doute qu'il n'y a aucun mérite à revenir à elle aujourd'hui, à réagir aux thèses de Benjamin sur Baudelaire et le chiffonnier, ou à prolonger les analyses des objets désuets d'Orlando. Si l'on s'intéresse au chiffonnage, c'est tout simplement parce que c'est dans l'air du temps. Après une parenthèse d'un siècle environ, nous sommes entrés de nouveau dans l'ère du recyclage, de ce que l'on appelle l'économie des déchets.
l'économie circulaire. Il y a quelques années, il y a eu un film d'Agnès Varda intitulé « Les glaneurs et la glaneuse, nous me rompons le recyclage contemporain ». Et lorsqu'Agnès Varda intitule son film « Les glaneurs et la glaneuse », c'est elle la glaneuse. Donc elle reprend cette métaphore dont je disais qu'elle avait disparu, en gros du temps de Zola, que le poète n'est plus chiffonnier au-delà de ce moment-là. Eh bien, elle reprend cette métaphore pour désigner la glaneuse. Le creusement des inégalités a de nouveau rendu cette métaphore à peu près universelle. Et je dirais aussi qu'en ce début du XXIe siècle, nous sommes tous devenus des chiffonniers, puisque l'on nous oblige à trier, comme disait Privat d'Anglemont dans Paris Anecdote, où il disait aussi « triquer » en argot. Lorsque le préfet Poubelle a introduit le récipient en 1883, il entendait qu'il y en eut trois et que les Parisiens trient. Mais il a fallu un siècle pour que nous ayons trois poubelles à Paris et que ces vœux aient été exaucés. Dans les rues de Genève, c'est bien pire, puisqu'il y a 9 orifices entre lesquels il faut distribuer ces déchets. En tout cas, l'économie circulaire est partout d'actualité. Les déchétariens, comme on dit, luttent contre le gaspillage, contre lequel ils plaident pour le glanage et le grappillage. C'est donc un sujet d'actualité et je crois que c'est cela qui renouvelle forcément notre façon de lire la poésie de Baudelaire. Mais il faut se dépêcher, parce que souvenez-vous d'une image que je vous avais montrée lors du premier cours, de cette belle rue Sourdis entre la rue Charlot et la rue Pastourelle du côté des archives, avec ses bornes, ses pavés et son ruisseau central. Eh bien, j'y suis retourné il y a quelques jours, et la voici. Je suis donc heureux d'avoir fait ce cours cette année et je vous remercie.